Les cours du Collège de France, Franck Courchamp, chaire biodiversité et écosystème.
Bonjour, je vous remercie de votre présence pour ce quatrième cours. Donc, si jamais vous étiez venu pour voir un cours sur les fourmis, ça veut dire que vous n'avez pas suivi la correction d'erreur du programme. Les fourmis, c'est la semaine prochaine. Okay, donc aujourd'hui, on va parler plutôt de chats. On va parler d'invasion biologique et on va se focaliser sur une espèce que j'ai choisie pour être une qui est particulièrement étudiée, parce que particulièrement problématique en tant qu'espèce exotique envahissante, et qui, vous allez le voir, malgré le fait qu'elle est particulièrement étudiée, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Au niveau de la science des invasions, on n'a pas encore des certitudes sur tous les plans. Donc, je vais vous présenter ce cours en quatre grandes parties. Je vais vous faire une petite introduction brève sur les chats, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, je vais vous parler de leur rôle en tant que moteur d'invasion biologique dans des écosystèmes très particuliers, qui sont les écosystèmes insulaires, pour après parler de leur rôle de manière plus générale sur les continents. Et puis, on va replacer tout ça dans une dernière partie, dans un cadre plus écosystémique, avec pas seulement le chat et une proie ou des proies, mais le reste de l'écosystème, ou en tout cas un petit peu plus que juste ces deux acteurs. Alors, d'abord, premièrement, le chat, c'est un petit peu particulier dans le contexte des invasions biologiques, parce que c'est une espèce qu'on a domestiqué. L'origine de la domestication est aussi quelque chose qui a fait énormément de débats, énormément d'études. Pour l'instant, là où on en est, c'est que les chats ont été domestiqués dans le croissant fertile au Proche-Orient pendant le Néolithique, donc il y a 9500 ans. Et puis, une fois qu'il a été domestiqué, il s'est un peu dispersé en suivant les humains. Pendant l'Antiquité, lorsque le chat égyptien s'est répandu dans l'Ancien Monde. Et enfin, une troisième phase où, avec l'exploration du monde au-delà de l'Ancien Monde, le chat a été introduit sur tous les continents, notamment parce qu'il contrôlait les rongeurs sur les navires et donc il était très souvent sur les navires. Et puis, vous connaissez les chats, hein, ils descendaient et puis ils ne remontaient pas quand le navire partait, ce qui fait qu'il a été introduit sur tous les continents. Alors, après cette très brève introduction sur la domestication, je voudrais faire un petit point sur l'appellation, parce que là, il y a pas mal de confusions qui ne sont pas le fait du public, hein, c'est le fait de la science, parce que chat domestique, chat sauvage, c'est à la fois une dichotomie du nom d'espèce et une dichotomie du niveau d'indépendance aux humains. Alors, ça ne simplifie pas les choses, mais le chat domestique, c'est le nom de l'espèce. C'est Felis catus. Et le chat sauvage, en fait, c'est le nom d'une autre espèce, Felis silvestris, qu'on appelle aussi souvent wildcat en anglais, donc ils font la même erreur que nous. Donc on essaye de plus en plus de parler de chat forestier pour essayer de ne plus avoir cette confusion entre le nom de l'espèce et le niveau de dépendance aux humains. Parce que le chat sauvage, bah, c'est aussi souvent la manière dont on appelle les chats qui ne sont plus seulement dépendants des humains. Donc, on a un petit peu plus de catégories pour le niveau de dépendance aux humains. Si on reprend cette figure ici, on peut considérer le nourrissage, la reproduction et le mouvement. Et en fonction de si c'est contrôlé, peu contrôlé ou pas du tout contrôlé, eh bien, on va avoir quatre catégories. On va avoir les chats d'intérieur, ceux qui de toute façon restent dans l'appartement et ne sortent pas. On va avoir des chats qui sont des chats d'intérieur, c'est-à-dire que vous nourrissez, mais qui vont sortir quand même. Et si vous ne les avez pas stérilisés, eh bien, la reproduction n'est plus contrôlée. Et le mouvement, il est peu ou peu contrôlé. Enfin, ça dépend évidemment des maisons. Après, vous avez deux catégories que nous, on appelle souvent les chats errants versus les chats arrêts. Donc, les chats errants, c'est quand même des chats qui sont au contact des humains, qui viennent se faire caresser quand vous leur donnez à manger dans la rue. Et puis, les chats arrêts, c'est des chats qui ont coupé le contact avec les humains et qui ne se laissent pas approcher. Okay, donc, on a ici un gradient de dépendance des humains qui est aussi un gradient d'interaction avec la biodiversité. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les chats sont carnivores. Donc, les interactions qu'ils ont avec la biodiversité, en général, c'est des interactions, à sens unique et... ça arrive une fois. Parce que les chats sont des prédateurs qui sont extrêmement efficaces. Donc ces deux choses-là, ça fait qu'en général, quand on s'intéresse à la biodiversité, si on a pas forcément à la biodiversité, aux animaux, on va dire, les chats, il y a deux camps. Hein, il y a ceux qui les détestent et ceux qui les adorent. Mais en général, les gens qui sont sensibles au monde animal, ils ne sont pas neutres envers les chats. Et donc, c'est des prédateurs efficaces, c'est des prédateurs qui ont été introduits un peu partout dans le monde. Et en fait, lorsqu'ils sont introduits dans un écosystème où il y a des proies naïves, alors ils peuvent avoir un impact important. Et les proies naïves, c'est des proies qui ont évolué dans un écosystème pendant des centaines de milliers d'années sans prédateurs de type petit carnivore terrestre. C'est souvent le cas des écosystèmes insulaires. Or, ils ont été introduits déjà dans au moins 123 des 131 groupes d'îles principaux dans le monde. Donc, ils ont été introduits vraiment un petit peu partout, y compris dans des écosystèmes où il n'y avait pas de chats ou équivalent au niveau écologique. Donc, on va justement parler un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur ces écosystèmes. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il y a de très nombreuses études sur le chat en tant qu'espèce introduite. La majorité, c'est des études de régime alimentaire ou de relations proie-prédateur. Donc, on voit ici que ce soit sur les continents avec les couleurs ou sur les îles avec la taille des triangles. On a énormément d'études et on a énormément d'études sur les îles. Le chat, c'est un envahisseur parfait. C'est-à-dire qu'il est extrêmement flexible. Il s'adapte très bien. Il est généraliste au niveau de l'habitat. Donc, on le trouve sur des îles subantarctiques où il y a des températures vraiment assez extrêmes. Mais on le trouve également sur des îles désertiques, équatoriales, des îles où il n'y a pas d'eau douce sur l'île et où il dort dans des replis de lave séchée. Ils ont une forte capacité de dispersion et d'adaptation. Ils ont une reproduction qui est très flexible en fonction du type d'écosystème, mais qui, dans ces écosystèmes-là, est souvent multipartenaire, c'est-à-dire polygame. Plusieurs mâles peuvent aller avec plusieurs femelles. Et une fécondité élevée. Donc, j'ai dit que c'était des prédateurs efficaces, mais surtout, c'est des prédateurs qui chassent indépendamment de leur faim. Donc, ils vont pouvoir chasser de manière opportuniste. S'il y a plusieurs proies, même s'ils n'ont pas faim, ils vont tuer plusieurs proies. Et c'est un prédateur généraliste avec une très large gamme de proies, vertébrées et invertébrées. On va voir ça tout au long de ce cours. De leur côté, les proies, en général, elles n'ont jamais eu affaire à des prédateurs terrestres de ce type. Donc, elles n'ont pas coévolué avec ces prédateurs pour s'adapter à la prédation. Et donc, on appelle ça des proies naïves. Elles sont naïves à la prédation, ça veut dire qu'elles n'y réagissent pas. Elles n'y réagissent pas individuellement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de comportement de vigilance, de fuite, voire de combat. Et elles n'ont pas non plus de réaction au niveau population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une reproduction compensatoire qui fait que si on considère la mortalité par la prédation d'un côté et la natalité, ça s'équilibre pour les proies qui sont adaptées à ces prédateurs, mais celles qui ne sont pas adaptées, en fait, elles ne compensent pas au niveau dynamique des populations. Et au niveau évolution, tous ces points-là, je ne vais pas les évoquer parce qu'on va, on a la chance d'avoir parmi nous Dr Frédéric Viard qui vient de Montpellier et qui est spécialiste à la fois de l'évolution et des invasions biologiques et qui va nous donner le séminaire après mon cours. Donc je vous invite à rester pour l'écouter. Ce qui fait que en fait, j'avais une bonne partie d'évolution du chat et des problèmes liés à ça dans mon cours au début. Et puis je les ai enlevés parce que je pense que c'était beaucoup trop long. Et puis c'est surtout, c'était beaucoup moins bien que ce qui va suivre. Mais quand même, le fait qu'il n'y ait pas de coévolution est accompagné par le fait que lorsque vous introduisez un individu dans un écosystème nouveau, mais souvent, il n'y a pas d'ennemi naturel dans cet écosystème nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de compétiteurs. Souvent, ils viennent avec peu de parasites, c'est-à-dire que les peu d'individus qui sont arrivés ont des fois quelques parasites sur eux, mais c'est qu'un sous-échantillon de tous les parasites de cette espèce, qui souvent ne résiste pas non plus parce que la population est trop petite au début et donc le cycle parasitaire ne marche pas forcément. Et donc ce sont des espèces qui sont en général pas du tout contrôlées par ce qu'on appelle les ennemis naturels, prédateurs, compétiteurs, parasites. Et puis il y a beaucoup de proies disponibles souvent dans ces îles. On peut penser par exemple aux très nombreuses îles qui ont des grandes colonies d'oiseaux marins. Donc une densité extraordinaire d'oiseaux complètement naïfs et qui se laissent faire. Et puis c'est un système clos, c'est-à-dire que même s'ils ne se laissaient pas faire, même si elles essayaient de s'enfuir, il n'y a pas d'échappatoire possible parce que ce soit les petits mammifères, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux qui sont souvent aptères, qui ne volent plus parce que sur certaines îles, ils perdent cette fonction, on ne peut pas s'échapper. Donc ça veut dire que au total, il va y avoir un impact quand même assez important. Et puis, je vous ai dit que les chats étaient des prédateurs opportunistes qui chassent indépendamment de leur faim. Et des fois, un seul individu peut se spécialiser sur une espèce de fixation, et il peut faire des dégâts assez importants à certaines populations natives en quelques jours seulement. Donc ici, vous avez l'exemple du contenu stomacal d'un seul chat, arrêt, en Nouvelle-Zélande, qui avait 34,5 dans son estomac. Donc comme ils étaient à différents niveaux de digestion, on peut estimer depuis quand ils étaient là. Et puis il n'y a pas de raison qu'ils aient commencé juste il y a quelques jours. Le chat devait chasser les 5 depuis assez longtemps. Et donc vous voyez qu'en quelques jours, 34,5, ça veut dire que sur une année, ça fait quand même pas mal. Un autre exemple, c'est un autre chat en Nouvelle-Zélande aussi qui avait tué 107 chauves-souris en seulement une semaine. Donc c'est un chat qui se spécialise de plus en plus dans un type de chasse parce qu'elle est efficace et donc il continue. Donc ça, c'est deux exemples pour un seul individu. Mais évidemment, les populations, elles ne comptent pas un seul individu. Des fois, elles peuvent compter des centaines, des milliers, voire plus d'individus. Et ça peut faire des dégâts assez importants. Un exemple, c'est aux îles Kerguelen, donc une île subantarctique. Il y a une population qui provient d'une femelle gestante introduite dans les années 50 et qui est estimé de nos jours à 6 000 à 8 000 individus, et on estime que collectivement ils doivent tuer quelque chose comme de l'ordre de 2 millions de pétrels tous les ans. Donc un impact, un prélèvement qui est vraiment très très important. Et puis il n'y a pas que la mortalité directe qui est due à la prédation, il y a tout un tas d'autres catégories qui sont importantes dans ce cas, qui sont des mécanismes liés aux relations proie-prédateur et puis des mécanismes qui n'y sont pas liés directement. Je vais vous donner juste deux exemples. D'abord, un exemple de perturbation de fonction. La fonction, là, c'est la dispersion des graines par la faune locale. Les lézards, en l'occurrence, il y a une étude qui montre que les lézards les plus grands sont les proies les plus faciles. Ce sont ceux qui vont disparaître les premiers. Mais ce sont ceux aussi qui mangent les fruits les plus gros et qui dispersent les graines les plus grosses. Et du coup, du fait de ce changement de structure des populations de lézards, tant qu'il en reste, les communautés de plantes vont être affectées, puisque les communautés de plantes dépendent de la dispersion de ces graines par les herbivores de cette île. Un autre exemple, c'est la prédation qui va créer ce qu'on appelle un paysage de la peur. Paysage de la peur, je l'avais mentionné dans ma leçon inaugurale. ce paysage de la peur qui est lié à la présence de prédateurs, ça peut dissuader des oiseaux de venir dans une colonie ou même de rester dans une colonie. Alors, le paysage de la peur, juste très rapidement, vous avez un risque de prédation et ce risque de prédation, il est perçu par les proies. Et en réponse à cette perception du risque de prédation, vous allez avoir un changement de comportement qui va avoir des dimensions spatiales et des dimensions temporelles qui fait que, indépendamment du fait de se faire tuer ou pas par un prédateur, il va y avoir des changements qui sont liés à la présence de ce prédateur. Tout simplement, la proie ne va plus aller à des endroits où elle est vulnérable. Et ça, ça va pouvoir changer pas mal de choses. Et donc, en fait, cette prédation qui crée un paysage de la peur va changer les communautés d'oiseaux. Or, les oiseaux font énormément de guano, les colonies d'oiseaux marins, énormément de guano. Et ça, ça veut dire qu'il y a un cycle des nutriments qui est important pour tout l'écosystème. L'écosystème marin et l'écosystème terrestre. Donc, au niveau écosystème terrestre, le sol et les communautés de plantes vont être affectées s'il y a beaucoup moins d'oiseaux. Parce qu'il y a beaucoup moins de guano, parce qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux. Et puis, on a des études aussi qui montrent que l'écosystème marin bénéficie énormément de tout ce guano qui est lâché dans l'eau, aux abords de l'île, et qu'en fait, l'écosystème va se baser en partie sur cet apport qui vient des oiseaux. Donc, si vous avez beaucoup moins d'oiseaux, ça va affecter tout l'écosystème. Et donc le chat, en fait, on a pu montrer que c'était une menace directe sur les espèces natives avec des extinctions d'espèces natives et naïves qui sont dues au chat envahissant. Donc on montre ici, par exemple, un réseau d'espèces et en vert, ce sont toutes les espèces qui se sont éteintes directement dues au chat depuis 1500. Donc on a vraiment pas mal d'éléments concrets pour le montrer. Et en fait, cette étude, qui date un peu, mais qui était quand même assez large, et qui avait pris tous les prédateurs introduits au niveau global, montre qu'en termes d'espèces menacées et d'espèces éteintes, les chats, en fait, que ce soit sur les oiseaux, les mammifères ou les reptiles, sont les prédateurs qui sont les plus responsables d'extinction d'espèces natives. En fait, ils sont responsables de 63 extinctions documentées, certainement plus, hein, mais on en a documenté 63, 40 oiseaux, 21 mammifères, 2 reptiles. Ça, c'est un quart de toutes les extinctions qui sont dues aux prédateurs introduits sur les îles. Puis, il y a une autre étude qui nous montre que c'est la même chose à peu près sur les espèces qui ne sont pas éteintes, mais qui sont actuellement menacées. Donc, on a c'est la deuxième menace, le chat, après le chytride, qui est un champignon qui affecte les amphibiens. C'est la deuxième menace pour les vertébrés, avec plus de 300 espèces qui sont encore menacées d'extinction à cause de cette prédation. Cette étude a regardé tous les régimes alimentaires ou toutes les proies possibles dans le monde entier, mais uniquement au niveau des îles. Et on voit ici, en fonction de la taille du point, le nombre d'espèces qui est impacté en fonction de l'île. Et donc on voit que c'est un phénomène qui est vraiment très global, très généralisé. Et elle a également montré, cette étude, que si on regarde les espèces qui sont éteintes ou qui sont menacées de manière critique, les reptiles et les oiseaux sont vraiment les deux catégories les plus importantes en termes de pourcentage, mais globalement, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez important. Une autre étude qui vient juste de sortir, qui est sortie il y a un ou deux mois, cette fois-ci, c'est une synthèse globale du régime alimentaire des chats. Donc à chaque fois qu'on a pu publier une étude sur n'importe quel écosystème, en fait ils ont récupéré ces études, donc il y a énormément d'études, et ils ont pu montrer que en fait les oiseaux sont la grande majorité des proies avec les reptiles et les mammifères qui, à eux deux, constituent l'autre grande moitié, on va dire, de ces proies. Et si on regarde en fonction des continents, bah, c'est à peu près toujours la même chose. Alors, Antarctique, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a que 20 espèces et donc ça fausse un petit peu les proportions. Mais donc, vous voyez sinon que c'est principalement toujours des oiseaux, des reptiles et des mammifères. Et si on regarde exactement les mêmes régimes alimentaires, mais en termes cette fois de catégories de menaces de l'IUCN, donc de préoccupations mineures à éteint, on voit ici qu'on a surtout des préoccupations mineures, mais qu'on a quand même un bon 15% d'espèces qui sont menacées, de toutes les espèces qui ont été considérées comme faisant partie du régime alimentaire des chats à un endroit ou à un autre de la planète. Donc 15%, c'est quand même assez important. Et toutes ces études, en fait, qui ont collecté des données de régime alimentaire et qui ont accumulé les nouvelles espèces qu'on trouvait à chaque fois, eh bien, en fait, à chaque fois qu'on a fait une nouvelle étude, on a trouvé des nouvelles espèces. Parce que c'est ce que ça indique ici, ces courbes, c'est que le nombre d'espèces qu'on trouve dans le régime alimentaire, plus on cherche, plus on trouve. Okay ? Mais si vous voyez bien ici la forme de la courbe, vous voyez qu'on n'est pas arrivé à saturation. Mais on devrait y arriver, logiquement. Il n'y a pas de raison de penser que ça va se mettre à changer bizarrement, cette courbe. Donc on peut estimer, en fait, à partir de quand on va avoir à peu près trouvé toutes les espèces qui sont dans le régime alimentaire. Et donc, c'est de l'ordre de 700-800 pour les continents et on va dire à peu près de 1500 espèces pour les îles océaniques. Et donc, tout ça nous fait dire que le chat fait partie des pires espèces exotiques envahissantes et pour le coup il fait vraiment partie de cette liste concoctée par les experts de l'IUCN des 100 espèces parmi les pires espèces exotiques envahissantes au monde. Alors c'est pas les 100 pires, j'insiste, c'est 100 parmi les pires. C'est pas une étude qui a été faite avec des indices standardisés pour comparer des choses qui souvent ne sont pas vraiment comparables. C'est 100 espèces qui ont été mises en avant pour illustrer la diversité des espèces, l'impact vraiment important de ces espèces, les types d'impact. Et notamment, il y avait une règle, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux espèces du même genre qui soient dans cette liste. Donc, par exemple, si vous avez deux fourmis du même genre qui sont particulièrement envahissantes, une seule a été choisie. Donc, cette liste très sélecte, elle comprend le chat domestique. Donc sur les îles, c'est établi, c'est un vrai problème et c'est un vrai fléau au niveau mondial, avec énormément d'espèces éteintes, énormément d'espèces menacées. Maintenant, on va regarder sur les continents et on va voir si le schéma est similaire. Alors, il y a pas mal d'études aussi sur le continent, vous rappelez la première carte. Ici, vous avez une étude en Amérique du Nord, je ne sais plus si... Non, il n'y a pas le Mexique, il y a juste États-Unis et Canada. Et ils ont regardé, en fait, la mortalité en nombre. Alors, c'est en millions, mais c'est en log. Hein. Donc, les différences sont beaucoup plus accentuées en réalité. Ça gomme les différences. Les mortalités qui sont dues à différentes causes. Donc, vous avez ici les chats. Donc là, on parle de milliards ici à la fin, millions et milliards. Vous avez tout ça, c'est des collisions, en fait. Collision avec les fenêtres des... On parle des oiseaux seulement, hein. On ne parle pas des reptiles et des mammifères. Donc les collisions avec les fenêtres des bâtiments, les automobiles, les lignes électriques, etc., etc. Et en fait, comme c'est une échelle log, mais en fait, même si vous sommez toutes ces collisions, ça fait quand même moins que ce que les chats prélèvent annuellement aux États-Unis et au Canada. Et en fait, il y a cette étude qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, une douzaine d'années, qui est sortie dans un des journaux de Nature, où aux États-Unis, Loss et Mara ont collecté toutes les données qu'ils pouvaient sur le prélèvement de tout ce que les chats mangeaient, et en particulier les oiseaux et les mammifères. Et leur chiffre est un peu fort, le take-home message, c'est qu'il y a par an entre 1 et 4 milliards d'oiseaux qui sont tués par les chats, et entre 6 et 22 milliards de mammifères qui sont tués par les chats, par an, juste aux États-Unis. Et donc ça, évidemment, ça a fait une explosion un peu dans le monde scientifique et bien au-delà, parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, les chats, on les déteste ou on les adore, très peu de gens sont neutres, y compris souvent les scientifiques, qui sont pas complètement immunisé contre les préconceptions et les biais inconscients. Et en fait, ça a été le message qui est sorti de ça, c'est les chats, c'est tellement catastrophique, parce que c'était vraiment l'impact des chats. L'impact est tellement fort qu'il faut éliminer les chats. Donc il y a eu des campagnes qui ont été mises en place, et notamment en Australie, ça a eu beaucoup de résonance, parce qu'en Australie, et on le verra un peu plus loin, les chats introduits sont vraiment très très problématiques. Donc ici nous avons notre figure clé qui montre 2 milliards, 12 milliards, cet impact des chats errants sur la vie sauvage aux États-Unis. Et en fait, en regardant ça, moi je me suis posé une question assez basique. Est-ce que ça montre vraiment un impact? Pour moi, ce n'est pas un impact. En tant que dynamicien des populations, pour moi, c'est un prélèvement, c'est la mortalité. Alors évidemment, oui, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est beaucoup au point d'être aussi beaucoup qu'un impact? Est-ce que ce prélèvement important est synonyme d'un impact important? Est-ce que même c'est un impact tout court? On peut avoir un impact, un prélèvement qui est gigantesque, et un impact qui est gigantesque, ou un impact qui est petit, voire même qui n'existe pas, en fonction des populations qui sont prélevées. Vous pouvez très bien avoir un nombre important d'individus tués et un impact faible, si ce sont des espèces qui sont bien adaptées à cette prédation et qui, par exemple, se reproduisent beaucoup et que c'est juste les non-reproducteurs qui sont éliminés. Mais vous pouvez aussi avoir un faible nombre d'individus qui est tué avec un impact très important. Si c'est une espèce rare, le fait d'avoir un prélèvement de quelques individus, ça peut avoir un effet vraiment disproportionné. Et donc, prélèvement et impact, c'est complètement différent. Et toute l'étude était basée sur la démonstration, enfin, sur le passer le message que l'impact était gigantesque. Donc, ce qui est intéressant ici de prendre en compte, c'est qu'il peut y avoir des effets compensatoires de la prédation par opposition à des effets additifs. Les effets compensatoires, c'est quand la prédation sur les individus, en fait, est sur les non-reproducteurs, qui donc, on va dire, ne participent pas à la dynamique de la population. Ça peut être aussi sur les individus malades. Et si c'est sur les individus malades, ça peut même être bénéfique pour la population parce que ça peut empêcher des épidémies, par exemple. Et des fois, il y a un équilibre entre la prédation et la fécondité qui fait que ces individus qui sont prélevés ne font pas chuter la population. Donc il y a une étude qui a été faite alors avant celle de Loss et Mara, mais ils ne l'avaient pas pris en compte, et qui montre en fait des effets compensatoires. Si on regarde la masse musculaire ici et la masse graisseuse ici, des oiseaux qui sont morts, des oiseaux qui sont morts en bleu mangés par les chats, ou en blanc victimes de collisions, toutes les collisions qu'on a vues tout à l'heure dans le premier graphe, en fait, on s'aperçoit que c'est à chaque fois beaucoup plus faible pour les barres bleues que pour les barres blanches. En fait, les individus qui sont tués par les chats avaient une masse musculaire moins importante et une masse graisseuse moins importante, ce qui sont deux indices de santé de l'individu, de bonnes conditions physiques. Et donc, ça montre qu'en fait, ces individus, ils auraient étaient plus susceptibles de mourir d'autres causes que de mourir de prédation. Et donc ça indique une mortalité compensatoire. Une autre étude montre que la densité des oiseaux, en fait, n'est pas affectée par la densité des chats. C'est pas plus il y a de chats, moins il y a d'oiseaux. C'est plus il y a d'oiseaux, plus il y a de chats. Et donc ça, c'est aussi cette absence de corrélation négative marquée entre les densités de proie et de prédateur, c'est aussi une indication d'absence d'impact important. Mais en fait, vraiment, pour étudier l'impact, on manque d'études sur les continents. On en a pas mal sur les îles, mais sur les continents, on a des études de prélèvement. Et on a des études de densité de chats. Mais on n'a pas forcément des études de dynamique des populations ou de réseaux trophiques. Il nous faut aussi des études à large échelle sur les continents pour pouvoir s'affranchir du problème contextuel qui fait qu'on a des spécificités à chaque point. Donc il nous faut des grandes échelles pour gommer ces spécificités contextuelles. Et on a besoin d'une estimation quantitative de l'impact réel des chats dans ces écosystèmes, pas uniquement du prélèvement. Et donc, nous, on a essayé de répondre à ça avec deux séries d'études, en fait trois, une aussi sur la coévolution, mais je vous ai enlevé cette partie, ce qui va me permettre de ne pas parler trop vite et même de prendre une ou deux questions à la fin. Une série d'études sur la dynamique des populations et une série d'études sur l'écologie trophique. Donc on va passer assez brièvement sur juste les résultats. Alors d'abord de la dynamique des populations, on a regardé un petit peu toutes les espèces qui étaient considérées comme affectées par le chat dans cette grosse base de données, qui est une base de données de l'IUCN, et ça nous a permis non seulement d'avoir une liste, alors ça on l'avait fait avant l'étude que je vous ai montré tout à l'heure, qui est sorti il y a quelques mois. Et on a fait aussi une revue de la littérature pour avoir toutes les espèces qui étaient citées comme proies. Donc on avait à la fois les proies et leur statut IUCN. Et on a regardé ça, évidemment, que sur les continents. Donc on a du coup toutes les proies qui sont confirmées et on a récupéré toutes les informations de statut, de population, etc., au niveau mondial, donc le statut de conservation, la taille des populations ou la taille de la métapopulation, enfin de l'ensemble des individus des populations, les tendances de ces populations. Et même si on a fait ça sur le monde entier, je vais vous présenter ici les résultats sur les États-Unis, l'Europe et l'Australie, qui sont trois endroits assez contrastés. Contrastés principalement parce que l'arrivée des chats est arrivée à des dates différentes. Alors, dans les données, on a aussi mis un point un petit peu particulier sur les espèces d'oiseaux qui étaient citées comme les plus impactées en Amérique du Nord par les chats. Donc on a pris les 10 espèces qui étaient, pour lesquelles c'était catastrophique les prélèvements et on a cherché des informations démographiques plus précises sur ces espèces. Donc on a regardé taux de natalité, taux de mortalité avec, sans chats, taux de migration, etc., etc. Donc on avait à chaque fois le pourcentage de mortalité qui était dû à la prédation par les chats pour chacune de ces espèces. Hein, c'était donné dans l'os étal. Et on a fait de la modélisation démographique des populations de ces espèces en présence et en absence des chats pour voir l'effet des chats. Toutes ces données nous ont permis de répondre à quatre questions. Une question sur l'état général des espèces en général, c'est-à-dire comment elles se portent, ces espèces qui sont prédatées par les chats. Donc on a regardé le statut de conservation, les tendances des populations, en déclin ou pas en déclin, et les tailles des populations, est-ce que ce sont des petites populations ou des grandes populations. Et puis la quatrième question, c'est l'impact quantitatif des prédations sur la dynamique des populations de proies grâce à nos modèles. Donc premièrement, le statut. Donc vous avez ici le code couleur qui vous montre si on a une préoccupation mineure ou si on a des espèces menacées. Et on voit bien que pour les oiseaux, mammifères, reptiles, en général, c'est plutôt bleu, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou en Europe. Et en fait, le niveau de menace des espèces qui sont proies sur ces trois continents est quand même relativement faible, puisque c'est beaucoup plus des préoccupations mineures que l'on a. À noter quand même qu'en Australie, on a des espèces menacées, et notamment les mammifères, on a un cinquième des mammifères australiens qui sont menacés par les chats. Rappelez-vous, hein, l'Australie, c'est particulier, c'est une grande île ou un continent qui a évolué en isolement total et qui n'avait pas ces mammifères qui ont été introduits assez récemment. Et donc les petits mammifères locaux ne sont pas adaptés forcément à cette prédation. Et puis, même si là, on n'a quasiment que des espèces qui sont en préoccupation mineure, il n'est quand même pas impossible qu'il y ait eu des espèces vulnérables il y a quelques siècles et qu'elles aient disparu assez rapidement. L'état actuel, c'est que les populations actuelles ne sont pas forcément menacées. Les proies des chats sur ces trois continents ne semblent pas plus menacées que les autres et généralement, elles sont assez peu menacées. Ça, c'est la première conclusion de notre étude. Maintenant, au niveau de la tendance de ces populations, peut-être qu'elles ne sont pas menacées, mais qu'elles sont en train de toutes chuter vertigineusement. Et donc, on a regardé, ici en vert, les populations en croissance, en gris, les populations stables, et en rouge, les populations en décroissance. Et on s'aperçoit que pour les oiseaux, mammifères et reptiles, sur les trois continents, on a quand même une majorité de populations qui sont en croissance ou stables. Mais on a quand même beaucoup d'espèces qui sont dans des populations qui déclinent. C'est ce qui est en rouge. Donc, on a une majorité qui ne décline pas, mais on a quand même beaucoup d'espèces qui déclinent. Beaucoup de populations qui déclinent. Si on regarde en Europe, les reptiles et les amphibiens, qui sont bon, pas très nombreux en termes de... On en a quatre. Hein. On en a deux qui déclinent, deux qui... Oui, il faut regarder aussi les nombres ici qui vont pondérer un petit peu ces graphes. Mais bon, globalement, on a plutôt des populations qui sont stables ou qui sont en croissance. Les résultats, ils sont assez contrastés, mais on a une grande majorité de populations en croissance ou stable, et on a des populations qui sont aussi en décroissance. Troisième aspect de cet impact, c'est la taille des populations. Parce qu'une population qui décline, mais qui est gigantesque, ce n'est pas du tout pareil qu'une population qui augmente, mais qui est toute petite. Okay, donc on a regardé aussi ça. Et donc on a le même type de graphe ici. Alors en vert, ce sont les populations qui croissent, en gris, qui sont stables, et en rouge, qui décroissent. Juste pour faire la distinction, mais ce qui est intéressant ici, c'est les populations en général, parce que ce qu'on veut regarder là, c'est la taille des populations. Donc là, ici, par exemple, aux États-Unis, si on regarde tous les oiseaux, donc là, j'ai mis que les oiseaux pour simplifier, si on regarde tous les oiseaux, on est de l'ordre de la dizaine de millions par espèce. Si on regarde en Europe, on est beaucoup plus, hein, là, il y a plusieurs dizaines de millions, on approche des fois la centaine de millions par espèce. Par contre, en Australie, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Hein, ici, on est de l'ordre de dizaines de milliers d'individus. Donc là, en Australie, une population qui décline ou une population qui est menacée et qui est petite, ben c'est plus problématique. On a des populations bien plus petites en Australie. Et donc, la conclusion à cette troisième question, c'est qu'on a des populations qui sont plutôt importantes, mais pas en Australie. Et puis, on a cette dernière question qu'on voulait poser sur vraiment l'impact quantitatif, essayer de mesurer. Et comme on ne peut pas le faire sur les milliers d'espèces qui sont mangées par le chat, on l'a fait sur les 10 espèces les plus menacées selon l'étude sur laquelle on s'est basé, l'étude de Loss et al. 2013. Donc pour ça, en fait, on a regardé la probabilité d'extinction de ces 10 espèces et on a utilisé la proportion moyenne de la mortalité qui est causée par la prédation par les chats dans chaque espèce. Et cette proportion, elle est donnée par cette étude. Donc on a utilisé ce qu'on appelle des analyses de viabilité des populations qui sont une famille de modèles très particuliers et qui est vraiment construite pour ça. C'est une méthodologie qui va consister à déterminer la probabilité qu'une population se maintienne ou qu'elle s'éteigne pendant une période donnée. Donc on va essayer juste de regarder la probabilité qu'une population reste, donc sa viabilité. Et en fait, si on utilise exactement le même modèle avec prédation et sans prédation, on peut comparer ces différentes probabilités. Et comme dans les modèles, c'est assez simple de comparer avec ou sans prédation, il suffit d'utiliser le même modèle qui comprend la prédation, mais de mettre les chats à zéro, à temps zéro. Et du coup, les chats, comme il n'y a pas de génération spontanée, ils ne sont jamais présents. Et donc, on a cette fois-ci la mortalité par d'autres causes et donc la probabilité d'extinction indépendamment du chat. Donc, la différence entre nos deux modèles, ça va être l'impact quantitatif de la prédation qu'on va faire sur chacune de nos 10 espèces d'oiseaux. Et ici, vous avez le résultat principal, qui est la proportion de la probabilité d'extinction sur 100 ans avec et sans prédation pour chaque proie. Donc si vous avez 0, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si vous avez 1, c'est que vous avez 100% plus d'impact par la présence des chats. Donc vous doublez la probabilité d'extinction. C'est ça l'impact des chats. Et en fait, on s'aperçoit que il n'y a pas d'augmentation de la probabilité d'extinction pour la plupart des espèces. Ou vraiment très 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 peu. Ça veut dire que qu'il y ait des chats ou qu'il n'y ait pas de chats, la population va avoir la même probabilité d'extinction, qui en général est assez faible, sinon elle ne serait plus là. Il y en a quand même 3 pour lesquels on double la probabilité d'extinction, puisqu'on est à 100%. Donc ces 3 espèces, on les regarde d'un peu plus près, en fait, il y en a 2 qui sont des espèces introduites, dont une qui est particulièrement envahissante. Donc on va dire que si la population risquait plus de s'éteindre, ce serait plutôt une bonne chose parce que c'est une espèce qui n'appartient pas à cet écosystème nord-américain et qui pose des problèmes sur la biodiversité là-bas. Alors qu'en est-il de cette 3e espèce qui est locale? En fait, c'est une espèce qui a une très grande aire de distribution, qui a une très grande taille de population, 29 millions, qui est en préoccupation mineure, ça veut dire qu'au niveau menace, classement par l'IUCN, elle n'est pas menacée, et puis c'est une population stable. Et en plus, la probabilité d'extinction, elle est doublée, mais elle reste quand même encore très très faible. Parce que là, on a regardé juste la proportion, mais si vous avez 1% de chance que votre population s'éteigne dans 100 ans, ou si vous avez 2% de chance, vous avez doublé, mais vous n'êtes quand même pas arrivé à des risques phénoménaux. Donc voilà, cette espèce-là, elle n'est pas forcément menacée non plus. Pour la petite histoire, cette espèce, ça s'appelle le moqueur-chat. Donc en fait, on a montré qu'au niveau de l'impact quantitatif, il n'y a pas d'impact notable de la prédation sur ces 10 espèces qui étaient présentées comme les plus impactées par la prédation des chats aux États-Unis. Un prélèvement impressionnant, mais on n'a pas d'impact important. Donc la conclusion de ces 4 points, un niveau de menace plutôt faible pour les proies continentales consommées par les chats, exception faite de l'Australie, ça faut bien le garder en tête, des faibles tailles de population d'oiseaux, proportion non négligeable de population de proies en déclin, et des proportions de mammifères menacés qui sont plus élevées qu'ailleurs. L'impact de la prédation des chats sur les espèces de proies continentales est en fait peut-être pas aussi fort qu'on l'a prétendu, et en fait qu'on l'a prétendu sans jamais vraiment le démontrer, parce que on s'est un petit peu trompé quand on a voulu démontrer l'impact, on a juste démontré le prélèvement. Ceci dit, il faut se rappeler que certaines proies particulières peuvent encore être menacées, et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur le régime alimentaire tel qu'il a été trouvé dans la littérature, mais on ne trouve pas forcément tout, et notamment les espèces de proies menacées sont souvent plus rares, elles sont en densité plus faible, et donc elles sont plus difficiles à détecter dans l'analyse du régime alimentaire. Donc on a ici un biais dans l'étude de l'Osemara et dans la nôtre qui va sous-estimer le nombre de proies rares et donc souvent le nombre de proies menacées dans le régime alimentaire. Et donc on a pour ça, mais aussi pour le fait qu'on avait utilisé que 10 espèces, on a une nécessité de poursuivre cette modélisation sur un plus grand nombre de taxons pour essayer de voir au cas par cas les problèmes. Donc on n'a pas de relation claire entre l'abondance des proies et celle des chats domestiques. Rappelez-vous toutes ces courbes, toutes ces corrélations qui montraient que plus il y a de chats, plus il y a d'oiseaux. Ou plus il y a d'oiseaux, plus il y a de chats, mais en tout cas, ce n'est pas l'inverse. On a des études qui montrent un effet compensatoire. On n'a pas de preuve de déclin des populations de proies dues à la prédation des chats domestiques, dans le contexte continental. Et on a principalement des espèces qui sont non menacées, qui sont les proies des chats domestiques sur les continents. Donc ça, c'est la première série d'études au niveau démographique qui a été faite. Maintenant, je voudrais essayer d'ouvrir un petit peu l'horizon sur un autre type d'étude et de prendre en compte l'écologie trophique dans ces considérations. Et donc là, on va aller dans la quatrième partie qui va prendre en compte pas seulement les chats et une proie, mais de manière un petit peu plus large. Donc vous vous rappelez peut-être, j'espère, dans le dans la leçon inaugurale, cette métaphore des engrenages qui montrait que toutes les espèces sont liées les unes avec les autres, mais elles ne sont pas forcément liées de manière directe. Ce petit engrenage-là, il n'est pas lié directement à ce gros-là, mais l'un va faire tourner l'autre. Ce sont des relations indirectes qui sont à foison dans les écosystèmes et qui doivent arriver dans ces écosystèmes-là également. Donc rappelez-vous, le chiffre clé ici, entre 1 et 4 milliards d'oiseaux prédatés aux États-Unis tous les ans, entre 6 et 22 milliards de mammifères, qui fait que les chats sont une des espèces les pires, mais en fait, ils sont des prédateurs de mammifères, et aux États-Unis, une très large partie de ces petits mammifères, c'est en fait des rongeurs. Et les rongeurs, c'est souvent des rongeurs introduits aussi, et les rongeurs introduits, on sait que ce sont des prédateurs d'oisillons et puis des prédateurs d'adultes également. Vous vous rappelez ici la souris sur Gough Island et les énormes albatros qu'ils arrivaient à manger. Ce qui fait qu'en fait, il y a deux des rongeurs qui sont aussi sur la liste des 100 espèces parmi les pires. Alors il n'y en a que deux, en fait, il y a quatre grandes espèces de rongeurs envahissants. Le rat polynésien, le rat noir, la souris domestique et le rat brun. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans cette liste, on ne pouvait pas avoir deux espèces du même genre. Donc on ne peut avoir qu'un seul ratus. On ne peut pas avoir les trois ratus. Mais tout le monde s'accorde pour dire que les trois sont vraiment très, très problématiques sur la biodiversité. Dans les îles, et sur les continents, il y a moins d'études. Mais on sait que sur les continents, il y a aussi énormément de populations envahissantes de ces rongeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un écosystème comme ça et que vous voulez protéger les proies natives du chat, si jamais vous enlevez le chat, et c'est ce qui se passe en général dans les îles où les proies natives commencent à être très, très menacées, vous risquez d'avoir une explosion des populations de prédateurs intermédiaires qui, évidemment, vont faire éliminer la population de proies. C'est ce qui s'est par exemple passé sur l'île d'Amsterdam, donc c'est une île subantarctique assez isolée, où il y a des énormes colonies d'oiseaux, où il n'y a pas de prédateurs terrestres évidemment, et où des chats avaient été introduits et posaient des gros problèmes sur la biodiversité locale. Mais en fait, on a dû arrêter le programme d'éradication des chats à cause d'un accroissement alarmant de la population de rats, qu'on n'avait pas forcément remarqué au départ parce qu'ils étaient à assez faible densité du fait de la présence des chats. Il y a pas mal d'études qui montrent que, évidemment, les chats vont manger la faune sauvage, mais ils vont aussi manger les petits rongeurs qu'on appelle commensaux, c'est-à-dire ceux qui vivent proches de l'homme, donc les souris et les rats. On a ici une étude qui montre que plus on s'éloigne de la forêt et plus on va dans des zones qui sont un peu anthropisées, et plus la proportion ou la probabilité que la proie soit un rat augmente. Et si vous vous souvenez de ce graphe où j'avais dit les chats sont la pire espèce en termes de menace sur la biodiversité, en fait les rongeurs ils sont juste derrière. Donc la conclusion de l'OS et al. 2013, c'était que les chats avaient un impact négatif considérable sur les populations d'oiseaux qui pouvaient mener jusqu'à l'extinction. Donc ça, on avait dit que ce n'était pas vraiment démontré. Et leur conclusion derrière, c'était qu'il fallait un contrôle drastique des populations de chats pour diminuer l'impact des chats, et notamment en milieu continental. Un contrôle drastique de la population des chats. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle mathématique pour essayer de voir dans quelles conditions ça pouvait marcher. Donc vous avez ce top prédateur qui est le chat. Vous avez la population de proies qu'on va pouvoir modéliser de plein de manières différentes pour essayer de voir toutes les espèces de proies possibles. Et puis vous avez cette espèce de ce qu'on appelle un mésoprédateur, donc un prédateur intermédiaire. Là, vous avez le top prédateur qui va manger à la fois la proie, mais aussi le mésoprédateur. Et le mésoprédateur, lui, il va manger juste la proie. Et donc la question, c'est des effets indirects. Est-ce que l'effet indirect par le contrôle du mésoprédateur qui va bénéficier à la proie peut être, dans certains cas, supérieur à l'effet direct négatif Donc on a un effet direct négatif, un effet indirect positif. Lequel des deux est le plus important et dans quelles conditions? Parce que, je vous le rappelle, les rongeurs sont problématiques pour la biodiversité, mais aux États-Unis, ils sont aussi, et puis sur les autres continents, très problématiques pour l'agriculture, très problématiques au niveau santé. Ils sont porteurs d'énormément de pathogènes. Ils sont problématiques aussi au niveau des infrastructures, donc au niveau économique en général. Et puis, toujours au niveau, on va dire, économique, c'est le tourisme. Ça pose aussi des problèmes économiques qui sont substantiels. Donc, les rats n'ont pas que un souci sur la biodiversité au niveau des continents. Et donc, si l'effet de contrôle des rats était avéré, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, on a fait des modèles assez simples. Vous voyez ici, en fonction du temps, la taille des populations, quand on a juste l'oiseau et le rat, quand on a juste l'oiseau et le chat, et quand on a les trois en même temps. Alors, ça, ce n'est pas ce qui se passe dans tous les cas. Hein. C'est ce qui se passe dans certaines combinaisons de valeurs de paramètres. Mais il y a des valeurs de paramètres, des combinaisons de taux de natalité, taux de mortalité, taux de prédation de l'un, taux de prédation de l'autre, etc., qui font que dans certains cas, en fait, les rongeurs peuvent éliminer les populations d'oiseaux là où les chats les font juste chuter énormément. Mais que lorsqu'on met exactement ces paramètres-là avec les trois populations ensemble, en fait, la prédation des chats sur les rats, en même temps que sur les oiseaux, va permettre de contrôler la population de rats et donc de donner un petit peu d'oxygène aux oiseaux qui, même s'ils se font manger par les chats, se font beaucoup moins manger par les rats. Donc, c'est pas ce qui se passe dans tous les cas, mais il y a des conditions pour lesquelles c'est une possibilité, et c'est une possibilité qui n'est pas prise en compte dans les études de l'OSEMARA. Donc, supprimer les prédateurs apicaux peut avoir même des effets contraires à ceux désirés, parce qu'en fait, supprimer un prédateur, un top prédateur, et notamment ça a été démontré sur les îles, peut faire une explosion de la population de proie qui, avant d'arriver à un stade où elle va se réguler, elle peut monter bien au-delà de ce qu'on appelle la capacité limite du milieu à les supporter, et ça, c'est très très dommageable pour les proies. Donc cette explosion démographique. Donc c'est important de prendre en compte l'écologie et notamment les relations trophiques et de voir que le chat, dans les, je ne sais plus combien, 23 milliards de rongeurs, c'est pas anodin. Il ne mange pas que 2 milliards d'oiseaux, il mange aussi beaucoup plus de rongeurs. Ceci dit, un bémol, donc c'est un bémol sur mon bémol du bémol, les rongeurs commensaux, c'est-à-dire ceux qui vivent près des populations humaines, sont en général adaptés à la prédation par les chats. Et ça veut dire que les chats n'éliminent pas les populations de rongeurs. Les chats peuvent contrôler ces populations, peuvent faire en sorte qu'elles ne soient pas aussi grandes qu'elles pourraient l'être en leur absence, mais en général, elles ne sont pas supprimées, tout simplement parce que ces rongeurs sont adaptés à la prédation, pas seulement comportementalement, mais parce qu'ils se reproduisent de manière à compenser cette prédation. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le cours 6, ces relations entre toutes les espèces et le fait qu'il ne faut pas prendre juste une espèce isolée si on veut avoir une réponse qui soit exploitable. Et puis, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce type de résultat. Parce que ce type de résultat, il m'a posé un problème éthique. Et on a parfois des problèmes éthiques comme ça en écologie et en conservation. Là, en l'occurrence, nous, on a démontré dans nos études que les chats n'avaient pas un impact dans certains contextes, là où les gens disaient, enfin les études précédentes disaient qu'il y avait un impact très important. Nous, on a démontré que non, cet impact n'était pas très important. Mais en fait, on sait que cet impact, il est énorme ailleurs. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est que dans un contexte où, en général, les gens, pas seulement les scientifiques, mais aussi beaucoup le public, ne sont pas objectifs et même des fois ne sont pas nuancés du tout en ce qui concerne les populations de chats, est-ce que ce n'est pas courir un risque de nuire aux efforts de conservation qui sont importants et qui sont nécessaires si on minimise leur impact global? En d'autres termes, ces études que j'ai faites, je me suis posé la question et je me la pose encore, Est-ce que je les publie? Comment je les publie? Comment est-ce que je fais passer le message? Ouah, attention, l'impact des chats, tel qu'il a été publié jusqu'ici, en fait, il n'est pas du tout aussi important que ça. Parce que ce message, il peut être très facilement repris par des gens qui n'ont pas forcément les nuances scientifiques qu'on voudrait adossé à ce message et qui pourrait dire, bah, voyez, les chats ne sont pas un problème, ça a été démontré, il y a une étude qui l'a montré. Et c'est assez souvent qu'on a nos propos qui sont sinon déformés, au moins tronqués et non contextualisés et qui sont généralisés, et ça risque d'être un problème. Mais en même temps, c'est ma vérité, entre guillemets, de scientifique, c'est mes résultats, et je ne peux pas non plus ne pas les dire. Ce n'est pas parce que je pense que la vérité va à l'encontre de mon étude, de manière générale, et que mon étude est plus contextuelle, que je ne dois pas publier ça. Et donc, en fait, quel compromis est-ce qu'il faut que j'adopte dans ce cas précis? Qu'est-ce que je vais sacrifier? La vérité scientifique? Les chats n'ont peut-être pas autant d'impact que ça dans les milieux insulaires, ou la conservation de ces espèces? Il y a énormément d'espèces qui sont menacées par les chats. Et si le message global que les gens retiennent, c'est que les chats ne sont pas un problème, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, et ça risque d'être problématique. Donc là, je vous renvoie à de la philosophie des sciences. Alors, ce que vous avez présenté, Yves Ménard, la semaine dernière, ce n'était pas forcément axé sur l'éthique, mais c'était aussi beaucoup axé sur les contextes et la sémantique. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder sur YouTube son séminaire sur ces questions que les scientifiques se posent assez souvent. Hein. Donc on n'est pas en train d'inventer la bombe atomique, les réactions atomiques et de se demander si ça va être mal à utiliser, mais c'est à un plus faible niveau ce genre de questions. D'autant qu'il y a une étude qui est sortie il y a trois semaines, qui est une revue des évidences de l'évidence que les renards et les chats en Australie ont causé les extinctions des mammifères. Alors, il se trouve que cette étude, elle fait beaucoup de bruit, notamment parce que cet auteur est connu pour avoir fait pas mal d'études sur un peu de déni des invasions biologiques, et que il a montré que en fait, il y avait pas mal d'études qui n'étaient pas des évidences qu'il y avait eu cette extinction. Donc tout ça, c'est une évidence, et tout ça, c'est pas évidence. Et donc il montre qu'en fait, il y a beaucoup de populations qui se sont éteintes, qu'on a attribuées aux renards ou aux chats en Australie, mais on n'a pas une évidence démontrée forte. Alors oui, c'est vrai, on n'a souvent pas d'évidence, même si on pourrait quand même répondre que y a quand même beaucoup d'évidence pour beaucoup d'espèces, même s'il y a certaines études qui ne les montrent pas. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les évidences qu'ils considèrent, et c'est important, effectivement, d'avoir des évidences en science, mais ces évidences, elles sont extrêmement difficiles à obtenir, voire impossibles. C'est-à-dire que vous savez que le chat est arrivé sur une île, qu'il est arrivé en Australie, et une espèce de petit mammifère qui existait exactement à l'endroit où il y avait où cette population de chat s'est implantée, cette espèce a disparu en quelques années. Ce n'est pas une démonstration. Okay. Ce n'est pas une démonstration que c'est le chat qui l'a éliminé. Mais vous voyez quand même que dans les régimes alimentaires, dans les estomacs des chats, on retrouve des restes de ce petit animal. Ce n'est pas une démonstration. Il a très bien pu être un charognard de ces espèces. Mais vous avez des études qui montrent que, au niveau comportemental, des études observationnelles, qui montrent des actes de prédation du chat sur cette espèce. Ce n'est pas une démonstration. Ils ont pu prendre quelques individus comme ça, et ça n'a pas forcément eu un impact sur la population. En fait, pour vraiment démontrer qu'une espèce a disparu à cause du chat, c'est vraiment extrêmement difficile. Il faut avoir été présent avant, il faut avoir fait des études avant, il faut pouvoir comparer à après, il faut pouvoir vraiment démontrer tout dans les détails, avec de la dynamique des populations, etc. Et ça, c'est quasiment impossible, surtout sur des dizaines et des dizaines d'espèces. Donc, en fait, oui, il y a peu d'évidence solide, même s'il y en a quand même pas mal, hein. Mais ça ne veut pas dire que ces extinctions ne leur sont pas dues. Et donc, eux, en fait, ils ont un petit peu, mais on les soupçonne un peu de faire exprès, a répondu à la question précédente que je me suis posée au niveau éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait passer un message qui est vrai, mais qui va à l'encontre de, du message général, mais qui est contextuel ou qui est discutable, et bien, eux, en fait, ils se sont pas trop posé la question. Enfin, en tout cas, ils ont répondu, puisqu'ils ont publié cette étude qui est discutable quand même sur pas mal de points, mais dont le message principal est en fait, il n'y a pas de preuve que les renards et les chats sont des problèmes en Australie pour, au niveau de l'extinction des espèces. Donc voilà. En conclusion, je voudrais quand même insister vraiment sur le fait que les chats ont un impact écologique très fort dans les écosystèmes insulaires. Leur impact est probablement plus limité dans les écosystèmes continentaux, sauf en Australie. Les écosystèmes les plus impactés sont ceux où il n'y a pas eu de coévolution. Les espèces natives, qui sont aussi des espèces naïves, n'ont souvent pas développé de traits d'histoire de vie, donc la fécondité par exemple, ou de traits comportementaux, par exemple la vigilance, pour survivre à des prédateurs exotiques. Et ça, c'est la grande différence avec une espèce exotique envahissante et une espèce native qui pullule et qui a encore tous ses ennemis naturels dans son écosystème qui ont évolué pour pouvoir faire face à des fluctuations d'effectifs comme on en voit partout en écologie. Et donc on va voir donc l'évolution et la coévolution dans le séminaire qui va suivre. Les impacts souvent sont non démontrés, ils sont supposés à partir de prélèvements importants et d'impacts importants ailleurs. Souvent, on n'a pas pris en compte la dynamique des populations, les relations trophiques, les effets positifs ou indirects du prédateur et l'évolution. Mais on a encore pas mal de manque de données pour vraiment conclure que les chats ont un impact sur telle ou telle espèce, donc vraiment très contexte dépendant, sur les continents. Dans le doute, si vous avez des chats et que vous les laissez sortir, mettez-lui une clochette et jouez avec lui. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui montre qu'un régime alimentaire riche en protéines animales et beaucoup de jeux avec votre chat diminue significativement sa tendance à chasser dehors. Juste parce que j'aime bien vous dire quelque chose et vous dire le contraire juste après, rappelez-vous quand même que même sur les continents, il faut compter avec des situations complexes et que notamment au niveau des populations d'oiseaux, on a des effets sublétaux, rappelez-vous, paysage de la peur, etc. On a des populations d'oiseaux qui sont souvent très fragilisées, insecticides, destruction de l'habitat, etc. Des études qui montrent quand même qu'on a moins 30% de populations d'oiseaux communs en 30 ans en Europe. Et donc, en fait, les chats, même s'ils peuvent avoir un impact jusqu'ici qui n'était pas énorme, on est dans une situation qui change avec des effets qui sont en théorie minimes, qui pourraient en fait devenir significatifs, voire dramatiques, dans certains cas, pour certaines espèces. La conclusion, des effets importants, des effets contextuels, ça dépend. Des effets qui sont encore trop peu compris, malgré les centaines d'études qu'on a sur le chat domestique, qui est une des espèces les plus étudiées dans ce contexte. Et donc, dans le cours prochain, je vais passer d'une espèce qui est très étudiée, où on essaie de la comprendre, à une espèce qu'on appelle une espèce modèle, donc, ou un groupe d'espèces modèles dont l'étude va nous permettre de comprendre d'autres espèces et de comprendre des processus et les processus d'invasion en général. Et donc la semaine prochaine, on va parler de fourmis qui, vous allez voir, sont beaucoup plus mignonnes que les chats. Mais avant ça, je vous invite à écouter le séminaire de Frédéric Viard sur l'évolution. Et je remercie mes principaux collaborateurs de mon équipe. J'en ai d'autres sur toutes les études que je vous ai montrées à l'extérieur de mon équipe, mais ces cinq-là particulièrement ont travaillé sur le chat avec moi dans mon équipe. Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.